Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie Marquet, bonjour.
Bonjour.
Et de Jean-Claude Rouchouze, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Tous les deux, vous êtes ici pour annoncer le futur salon d'automne qui va avoir lieu le week-end en 8, c'est-à-dire le 12, 13 et 14 novembre à la salle polyvalente Boulevard du Ballon à Die. Ce sera des ouvertures entre 10 et 18 heures avec une entrée prix libre. Tout ça est organisé par l'association Sources et Racines dont vous êtes membre. Et nous allons donc présenter ce salon d'automne qui est sous quel aspect cette année ?
C'est l'aspect classique. L'aspect classique avec une exposition de champignons que l'on est allé cueillir la veille et l'avant-veille. Et aussi, les gens peuvent nous apporter des champignons que l'on expose. On peut aussi déterminer les champignons. Donc ça, c'est la partie classique du salon qui existe depuis 2012, depuis l'année 2012. Voilà. Mais cette année, il y a un thème particulier qui correspond à la botanique, aux graines et aux semences.
On va faire c'est un double salon avec donc une partie vraiment mycologie et une exposition thématique. Donc cette expo semences et graines autour de laquelle on va développer toutes les thématiques de biodiversité sauvage et cultivée avec des ateliers, des balades et des visites dont on va vous parler.
Alors, sur votre brochure, vous présentez cette exposition de champignons sur ces trois journées avec 150 espèces qui seront exposées.
Selon les années, on a entre 100 et 200, espèces du Diois et du Vercors. N'importe quelle espèce, comestible ou non comestible. Donc on peut observer toutes les catégories de champignons que l'on peut cueillir.
Et donc Marie, il y a des ateliers qui seront proposés à partir de samedi, qui s'intitule « Planter des haies avec des arbres et des arbustes d'origine locale ». Et un autre atelier ensuite « Graines, fruits et semences d'automne ».
Oui, alors pour expliquer, donc en fait, à partir de l'exposition mycologique, elle est le cœur de notre proposition. Et à chaque année, on propose une exposition thématique. Donc cette année, la thématique, c'est semences et graines. Cette thématique semences et graines, c'est à la fois parler de la biodiversité sauvage, donc de la façon dont les espèces se reproduisent et les enjeux de la biodiversité, et à la fois parler des plantes alimentaires et des semences paysannes. Donc on a fait plusieurs ateliers. Et on a invité de nombreux participants à venir transmettre sur une expérience très, très, très riche de collecte et de partage des semences paysannes. Donc le samedi, on commence par la biodiversité sauvage. Et donc là, Élise Levasseur, qui est pépiniériste à Saillant, elle va proposer un atelier auquel il faut s'inscrire sur place juste avant pour planter des haies localement avec des arbres et des arbustes d'origine locale, c'est-à-dire des arbustes qu'on va aller prélever dans l'environnement et qu'on va implanter autour de son jardin pour avoir une haie qui soit constituée des végétaux qui sont adaptés au territoire, qui sont adaptés au climat, et non pas des haies avec des plantes achetées en jardinerie d'origine exotique ou introduite. Donc Élise, elle fait un gros travail de transmission sur ce sujet, en plus de son travail de pépiniériste, sur la reproduction des espèces. Donc elle va prélever des graines avec le public et on apprendra comment transformer et préparer ces graines pour pouvoir les faire pousser en haie dans son jardin. Et ça, c'est à 10h30 le samedi. Donc il faut bien s'y prendre à l'heure, venir à 10h pour s'inscrire. Après l'après-midi, Grégory Lemoine fera une balade botanique pour découvrir dans les jardins du Perrier la biodiversité locale sauvage, c'est-à-dire les plantes spontanées du Diois. Et on verra à ce moment-là tous les fruits d'automne, toutes les petites baies, toutes les graines, comment reconnaître les plantes, leurs différentes façons de se reproduire. Donc ça, c'est les deux ateliers qui démarrent sur le volet semences le samedi. Ensuite, toute l'après-midi, il y aura... donc pendant tout le week-end, on a une exposition en place qui complète l'exposition mycologique, mais sur le volet graines. Cette exposition, elle s'appelle « Le voyage des graines ». Et c'est François Tranier, qui est un passionné de botanique, qui nous la prête et qui vient la commenter à partir de 14h. Donc ça, vous pouvez venir en famille pour voir cette exposition et comprendre... Et en même temps, admirer la diversité des graines, la manière dont les plantes font leurs semences, se reproduisent, etc. Donc ça, c'est à partir de 14h le samedi. Toute l'après-midi, il sera là pour présenter son exposition. Et puis à partir de 16h, là, il y a un troc de graines. Donc là, on ne parle plus trop uniquement de la diversité générale, sauvage, mais on parle vraiment des plantes potagères. Ce troc de graines, donc, qui est organisé par Alison de Sources et Racines et les potagers rares, consiste en un partage des graines qu'on a pu récolter dans son jardin pour pouvoir les échanger et avoir toute la diversité dont on a besoin au printemps. Donc ce sera à 16h. Et après, à la même heure, en parallèle, on a Jean-Marc qui est aussi dans Sources et Racines et lui, il vient exprès pour expliquer comment on fait justement pour produire ces graines. Il va montrer comment on peut trier les graines, parce que des fois, on se retrouve avec la plante, avec toutes les graines dedans, comment on fait pour enlever les petites particules, comment on fait pour les conserver. Donc, il va partager autour du tri des graines, mais aussi des enjeux de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, on peut les reproduire à partir de leurs graines, d'autres pour lesquelles il faut qu'il y ait eu différents événements qui permettent la reproduction. Donc, il va parler de ça. Il y aura des fiches disponibles aussi pour que les gens puissent repartir avec des connaissances fiables. Ça, c'est le samedi. Et le dimanche, eh bien, là, on a vraiment organisé quelque chose de très spécial et j'espère que de nombreuses personnes viendront participer à ça. Puisqu'en fait, Sandra Burger, donc, qui est au marché et qui est maraîchère dans les jardins du Perrier, accueille sur sa ferme les visiteurs avec son prédécesseur qui est Jérôme Munoz. Et Jérôme, il a été ici pendant très longtemps maraîcher. Et tous les deux, en fait, ils vont parler de la manière dont ils ont à la fois maintenu des espèces locales, des espèces potagères, donc des espèces, les poireaux du Perrier, des espèces qui ont été transmises sur plusieurs générations de plantes potagères et cultivées dans le Perrier. Donc Jérôme avait fait un gros travail de connaissance des variétés anciennes et Sandra a prolongé ce travail. Et ensemble, ils vont nous parler donc, des enjeux des semences pour les paysans, pour la production maraîchère. Et notamment, donc Sandra a aussi participé à des expériences, à des expérimentations autour des semences paysannes et elle va partager autour de ces enjeux-là pour la production alimentaire. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que même si on essaye de manger local, tant qu'on n'a pas la capacité à produire localement nos ressources, on est encore dépendant des producteurs de plants et de graines extérieures avec beaucoup d'enjeux de marché et d'autonomie autour de ces sujets. Donc ça, c'est le matin, cet accueil sur la ferme de Sandra. Et donc, c'est à 10h le dimanche. Et donc, c'est pareil, c'est bien d'arriver à l'heure pour être inscrit. Et dans le prolongement de ça, à 13h30, nous, on fera avec Jacques Planchon un récit sur l'histoire des graines en lien avec l'alimentation humaine, pour montrer qu'en fait, à partir des espèces sauvages, on a fabriqué des espèces potagères, ça depuis la nuit des temps, enfin depuis le néolithique, et qu'en fait, c'est cette transformation des graines qui a permis d'obtenir des plantes alimentaires. Il y a aussi eu des échanges, etc., à l'échelle de la planète. Et en fait, ça raconte l'histoire de l'alimentation. Et ça fait que depuis très peu de temps, en fait, qu'on n'est plus tellement capable de produire les graines dont on a besoin pour nos potagers. Que pendant longtemps, en fait, ça, c'est des choses qui se sont transmises à un patrimoine, en fait.
Le commerce des graines, actuellement, est aux mains de grands groupes industriels qui ont su imposer par lobby une réduction d'accès à certaines graines, voire même interdite au commerce. Comment se dégage, justement, votre travail et sur quelles perspectives vous voulez persister sur ce maintien de ces espèces et de ces semences ?
Eh bien, c'est vrai que la question qui se pose, c'est principalement la question de l'autonomie. C'est-à-dire, si un maraîcher veut produire localement, il faut qu'il puisse être aussi capable d'avoir des espèces qui sont adaptées à son territoire, adaptées à son climat, Et aussi, en termes de coûts, en termes de marché, c'est vrai que le fait d'être capable de faire soi-même ses graines, ben, ça permet de dégager de la liberté par rapport à des grands grainetiers, des grands catalogues qui, effectivement, imposent certaines variétés, notamment des hybrides, et empêchent, en fait, que ces graines soient reproductibles ensuite. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces, maintenant, vendues dans le commerce, qui vont donner des plantes dont on ne pourra pas tirer ensuite de semences. Les semences seront stériles. Donc, c'est restaurer, en fait, un cycle naturel qui est de planter, récolter l'alimentation et ensuite replanter pour l'année d'après, etc., qui est un cycle paysan depuis très longtemps. Et alors, pour préciser, en fait, donc, le salon d'automne, donc l'exposition mycologique, comme l'a dit Jean-Claude, c'est une exposition de champignons. Ça, c'est une première partie de la salle qui est très grande, où il y a donc toutes les espèces qu'on peut apprendre à connaître pour le Divois et le Vercors. Et en plus de cette exposition, eh bien, on propose une deuxième thématique qui est sur les semences et les graines. Donc le sujet des semences et des graines, en fait, c'est un sujet très large, puisque ça touche à la fois des questions de botanique, comment se reproduisent les plantes, reconnaître les plantes à cette période de l'année où elles font leurs graines. Donc il y a un volet vraiment de connaissance du vivant. Mais il y a aussi tous les enjeux paysans et d'autonomie alimentaire sur la question de la semence paysanne. Et sur ce sujet, donc, on a invité différents intervenants que je peux présenter, qui sont tous des personnes qui ont travaillé sur cette question des semences paysannes. Donc effectivement, on aura... Alors peut-être pour partir du programme, le samedi, on va plutôt parler de la biodiversité sauvage, le matin, avec Élise Levasseur, qui est pépiniériste à Saillant, et qui reproduit des espèces sauvages d'arbustes et d'arbres, pour faire des haies. Donc elle, en tant que pépiniériste, elle vend à des professionnels, mais par ailleurs, elle donne des formations sur comment faire des haies avec les arbres locaux, avec des arbustes locaux, en reproduisant soi-même, à partir des graines cueillies dans la nature, les espèces. Donc elle va donner un atelier de 10h30 à 12h30, et cet atelier aura pour but de montrer aux gens comment ils peuvent récolter des graines et faire eux-mêmes des haies locales, et non pas des haies avec des espèces achetées en jardinerie, qui sont d'origine tropicale disons, de production plus industrielle. Et ensuite, l'après-midi, sur la même thématique donc de la botanique et de la biodiversité sauvage, il y aura une balade avec Grégory Lemoine dans les jardins du Perrier sur les graines, les fruits et les semences d'automne qu'on peut observer pour comprendre aussi comment les plantes se reproduisent. Donc ça, c'est le volet semences. Et ça se prolonge en fin de journée à partir de 14h. Donc il y a une exposition qui s'appelle « Le voyage des graines » qui a été conçue par François Tranier, passionné de botanique et fasciné par la diversité. Et donc cette expo, elle est en visite ouverte tout le week-end et elle sera guidée par François toute l'après-midi du samedi. Et à partir de 16h, là, on rentre dans la question plus des plantes alimentaires avec donc Alison et les potagers rares qui vont proposer un troc de graines. Donc là, les gens peuvent venir avec leurs graines potagères pour pouvoir faire un partage de graines pour le jardin l'année prochaine. Et en parallèle, on a donc un autre collègue de l'association Sources et Racines, Jean-Marc Chabot, qui va expliquer comment produire, trier et valoriser les graines pour un potager familial. Donc ça, c'est le programme du samedi. Et toutes ces interventions, elles visent à donner de l'autonomie sur la mise en place de haies et de potagers à l'échelle familiale.
Il n'y a jamais eu d'embûche pour... traiter une plante sauvage en plante cultivée ? Est-ce que la nature se laisse faire, justement ?
Oui, alors ça, c'est justement ce que Élise Levasseur va expliquer, hein, c'est que les difficultés qui peuvent être liées à la reproduction à partir de souches sauvages, tout dépend de l'objectif, hein, donc il y a plein de choses qu'on peut dire sur ce sujet. Disons que les plantes sauvages, certaines ont été à l'origine de nos plantes alimentaires. Donc on fera justement sur ce sujet un récit avec Jacques Planchon le dimanche pour parler justement de l'archéologie des graines et de comment on est passé des plantes sauvages aux plantes cultivées. Donc en fait, c'est un patrimoine, cette transformation des plantes sauvages en plantes cultivées qui raconte l'histoire un peu de l'alimentation humaine sur des siècles et des siècles. Mais dans le cas précisément des haies, le but, c'est vraiment d'implanter des espèces qui sont acclimatées, qui sont adaptées au territoire. Et donc c'est plutôt... C'est des techniques à connaître, mais qui sont accessibles pour pouvoir justement installer au bord du jardin une haie avec des plantes locales et pas des plantes introduites.
Ces plantes sont purement ornementales, hein ?
Dans le cas des haies, la plupart du temps, elles sont locales, mais elles sont ornementales, mais elles peuvent être aussi alimentaires, elles peuvent être aussi utilitaires de différentes manières.
Et puis, donc, cette exposition de mycologie organisée par vous aussi, Jean-Claude, vous disiez donc présenter entre 100 et 200 espèces de champignons. Ils seront visibles
Voilà, des champignons qu'on aura cueillis l'avant-veille et deux jours avant, parce qu'ils ne se conservent que peu, donc on va les cueillir juste deux jours à trois jours ou quatre jours avant. Et donc, on les expose par catégorie, les agarics ensemble, les bolets ensemble. Donc, les gens peuvent découvrir des champignons qu'ils ne connaissent pas. Certains sont rares. Il y a plus de 800 espèces différentes de champignons dans le Diois et dans le Vercors. Certains sont bons comestibles, d'autres très toxiques, quelques-uns mortels. Donc, bien sûr, il faut être extrêmement prudent avec les champignons. Mais c'est donc une occasion, justement, de pouvoir les comparer et quelquefois de voir qu'il y a peu d'écart entre un comestible et un non-comestible. Hein. Donc, il faut être toujours très prudent avec les champignons. Mais c'est un monde immense, intéressant. Et il ne faut pas oublier que si les forêts sont en bonne santé, c'est aussi grâce aux champignons. Parce qu'un nombre considérable de champignons sont symbiotiques avec les racines des arbres. Et il ne peut pas y avoir une forêt en bonne santé sans une bonne santé des champignons, y compris même des champignons qui ne sont pas comestibles, hein, mais ils sont utiles aux arbres.
Peut-être qu'on peut compléter aussi en disant que sur le samedi, donc en fait on a une collègue de Lyon, Caroline Palliard, qui est à la fois mycologue et pharmacienne, elle enseigne à l'université de pharmacie. Et Caroline, en fait, c'est elle qui est à l'origine de la fête des mycologiques de Luz-la-Croix-Haute. Et elle est aussi très proche de Sur ses racines. Et donc, elle vient exprès pour partager avec Jean-Claude les actions de détermination. Et elle sera là donc tout le week-end. Et donc, Jean-Claude et Caroline accueillent les personnes avec leur panier et les aident à classer les champignons étranges qu'ils ont pu rencontrer. Donc, expliquent comment on détermine. Et Caroline, elle proposera le dimanche matin une sortie en pleine forêt pour comprendre mieux à la fois les biotopes sous lesquels vivent les champignons et aussi les enjeux de la cueillette, de la détermination. Donc c'est quand même assez précieux d'avoir sa visite pour soutenir l'expertise de Jean-Claude qui assure la tenue du salon depuis de nombreuses années avec beaucoup d'engagement, voilà, parce qu'il faut des gens capables de proposer des déterminations correctes et de transmettre autour de ça.
C'est un salon qui a été créé à mon initiative et à l'initiative de Daniel Nall, qui est malheureusement décédé. Donc ça date de 2012, il avait été pris en charge par l'association Dioise des Amis des Arts. Et à partir de 2017, c'est l'association Sources et Racines qui a pris le relais.
Vous parliez donc de ces présentations de champignons. Comment s'opérera justement ces tours de table ? Et vous serez présent pour les présenter au public ?
Oui, oui.
D'ailleurs, et vous citez aussi des publics qui pourraient venir avec des paniers de cueillettes. Et une question qui se pose, est-ce qu'un champignon qu'on ne connaît pas, peut-on le mettre dans le même panier que ceux qui sont comestibles ? Est-ce qu'il y a un risque de contagion ou pas ?
Non, non, le simple contact n'est pas dangereux. Par précaution, en général, on conseille d'avoir un panier où on met les bons que l'on connaît bien et un autre panier où l'on met, par exemple, ceux que l'on veut déterminer. Donc ça, c'est conseillé. Et bien entendu, quand on les trie pour les manger, alors là, il faut être extrêmement prudent et attentif.
Ces présentations, vous opérez par cycle, j'imagine, de quelques...
Les champignons sont... Chaque espèce est mise dans une assiette, hein, avec son nom commun, son nom scientifique, et si elle est comestible ou non comestible. Donc les champignons sont tous présentés sur les tables, les uns à côté des autres, mais classés par famille, par grande famille. Il y a une quinzaine de grandes familles. Alors, bien entendu, il est difficile de trouver le nom de tous les champignons, parce qu'il y en a que l'on connaît très mal, il y en a qui sont très rares. Et pour certains champignons, la détermination nécessite des microscopes. Donc nous on ne peut pas aller jusque-là. Donc quand on n'arrive pas à trouver le nom d'un champignon, on ne le met pas.
Justement, il n'y aura pas de microscope, peut-être aussi, pour développer la curiosité des personnes.
Un microscope, mais bon, ça ne va pas très loin, parce qu'au microscope, vous voyez les spores, donc vous ne voyez pas grand-chose, finalement.
Il y a l'usage des réactifs aussi, qui permettent de déterminer. Donc ça, Caroline apportera, et peut-être Jean-Claude aussi, des réactifs. Et juste pour répondre à la question sur comment se passe la visite, donc en fait, les gens rentrent dans la salle polyvalente. Ils peuvent visiter de manière libre, c'est-à-dire qu'ils se baladent parmi l'exposition. Et s'ils ont eux-mêmes des questions ou des choses à déterminer, ben ils se tournent vers la zone de détermination, qui est une grande table avec des gens qui sont là pour ça. Et à ce moment-là, ben, au fur et à mesure de leur arrivée, on leur propose des moyens de déterminer, on les aide ou on fait avec eux, suivant l'affluence et suivant les difficultés à le faire. Et ça, c'est pendant tout le week-end, à partir même du vendredi. Mais par contre, il faut savoir que le vendredi, on accueille aussi les scolaires. Donc le vendredi, c'est une journée où il y aura aussi la visite des scolaires avec un accueil à la fois sur la thématique champignons et à la fois un accueil des enfants autour de la thématique graines avec 4 personnes disposées à accueillir et à animer auprès des enfants sur les contenus qui seront dans l'expo.
Et les personnes peuvent apporter leurs champignons même la veille, le jeudi, au moment où on installe l'exposition. Il y a des personnes qui peuvent passer avec des paniers de champignons, ça c'est possible.
Ces présentations au Jardin du Perrier font partie de ces balades du dimanche.
Voilà.
Et donc il y a aussi celle qui concerne les champignons du Diwa, Jean-Claude Rouchouz. Caroline Paraliard sera aussi là pour présenter les champignons. Mais ça consistera en des balades dans la nature.
Caroline Paraliard fait une balade dans le Diwa, où les gens qui sont avec elle peuvent observer sur le terrain des champignons.
Alors les prises de rendez-vous seront sur la salle polyvalente, j'imagine.
Oui. Ben, juste avant. Hein.
Voilà.
Juste avant, donc c'est à 9h30, quoi.
Ouais. Hein,
le dimanche à 9h30, pour ceux qui veulent faire une balade mycologique, c'est possible à ce moment-là, avec Caroline Paraliard. Et nous, on fait des balades avant, c'est-à-dire le mercredi et le mardi après-midi, on va chercher des champignons pour le salon. Donc on informera les gens des horaires s'ils veulent aussi partir avec nous pour récolter des champignons.
Des temps forts du samedi qu'on a présenté rapidement quand même, on peut en reparler.
On va parler du dimanche parce que du coup, à partir de 15h, c'est aussi très important comme événement. Donc c'est là qu'il y a Oriane Bertrand, qui est une personne qui a réalisé en fait un voyage documentaire qu'elle appelle Sea Tour. Et en fait, elle a été collectée pendant un an autour du monde avec sa caméra, auprès de plein d'acteurs du monde paysan, mais pas uniquement, des associations, etc. Elle a été collectée, les expériences de chacun, autour du maintien d'une autonomie de graines. Et donc son sujet, ce sera une projection de ses petits films, c'est des films très courts, mais qui se succèdent pour parler des graines comme bien commun. Et le travail d'Oriane, c'est très précieux de pouvoir le voir à cette occasion-là, puisqu'en fait, elle a vraiment fait un an de récolte. Et à l'issue de cette présentation, donc qui aura lieu en salle polyvalente, sous forme cinéma, il y aura un débat. Et j'espère que vous serez nombreux à venir y participer, qui commencera à 16h et qui se portera sur la question de l'autonomie et des semences paysannes dans le Diwa, avec donc les intervenants déjà cités, Sandra, Jérôme et Oriane, mais aussi Adeline Vallée, qui porte un projet de maisons de semences dans le Diwa. Donc les maisons de semences, c'est en fait des lieux de conservation et de partage des semences. Et donc Jérôme et Oriane ont aussi été à l'initiative de maisons de semences, comme ça dans d'autres secteurs, en Trièves. Et donc l'idée, c'est de mettre en commun un peu les expériences et de voir qu'est-ce qui est possible de faire ici à Die. Donc ça, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens pour relayer autour de cette problématique qui est une vraie problématique contemporaine à la fois de l'agriculture et à la fois de la biodiversité. Parce qu'en fait, les semences paysannes, c'est aussi de la diversité. À la différence des semences, des grands grainetiers qui vont être très standardisés. Donc souvent, elles vont apporter des qualités particulières aux plantes. En fait, il y a donc les ateliers et les temps forts. Si je résume, donc sur les deux journées samedi et dimanche, il y a des ateliers où il faut s'inscrire et des balades. Donc planter et balades botaniques, ça il faut s'inscrire. Et des temps forts qui sont des accès en visite libre dans la salle polyvalente. Donc visite commentée de l'exposition Le Voyage des graines, troc de graines, faites vos graines potagères, ça c'est le samedi. Et le dimanche, il y a la balade mycologique, l'accueil à la ferme de Sandra autour des semences paysannes et l'archéologie de l'alimentation. Donc trois balades sur lesquelles il faut s'inscrire. Il y a de la place, hein, mais c'est juste parce qu'il y a un nombre limité de gens qui peuvent participer. Et après, des temps forts où tout le monde peut venir, enfin, je veux dire, où les places ne sont pas limitées et qui auront lieu en salle avec la projection débat, les graines, un bien commun, et ensuite, donc, le débat sur les semences dans le Diwa, les semences paysannes, les maisons de semences et la possibilité de faire émerger des alternatives sur ce sujet.
Et il y aura aussi une petite présentation des orchidées et des graines d'orchidées. Et puis, je pense aussi, une exposition de timbres-poste représentant des champignons. Donc voilà, sur des panneaux explicatifs.
Avec le club philatélique.
Oui. Oui.
Je voulais savoir, à l'image des animaux aussi qu'on cultive industriellement, c'est-à-dire que... On produit un animal pour sa viande, pour avoir un maximum de rentabilité. Est-ce que les plantes aussi ont cette... il y a une démarche pour les plantes également, que ce soit potager. À l'exemple, par exemple, du maïs. Le maïs naturel, sauvage, d'Amérique du Sud, a des épis minuscules. Et c'est par hybridation, développement, que le maïs, de nos jours, est monstrueusement... grand, quoi.
Oui, bah bien sûr qu'il y a une... Disons que depuis toujours en agriculture, depuis le début de l'agriculture, on a récolté et amélioré les espèces par sélection, en choisissant les espèces qui est les plantes les plus belles pour faire les graines. Et de génération en génération, ça a augmenté la taille et la qualité gustative et de conservation parfois aussi des graines et des plantes issues de ces graines. Donc ça, c'est, disons, la sélection qui s'est faite par le travail des agriculteurs au fil du temps, au fil des générations, sur du temps très long. Mais par ailleurs, c'est vrai que maintenant, il y a aussi des modes de culture, comme tu dis, plus industriels, notamment la culture hors sol, des cultures avec beaucoup d'intrants, etc., qui vont produire des graines qui seront pas, enfin, qui vont produire des plantes alimentaires qui ne sont pas forcément très bonnes au goût, mais qui seront volumineuses, qui pèseront plus lourd, qui seront plus faciles à conserver, etc. Donc ça, c'est notamment quelque chose qu'on verra dans le débat sur les semences, avec le travail qu'a fait Sandra sur les semences paysannes autour de la tomate. Donc elle a travaillé dans le réseau semences paysannes pendant plusieurs années sur des expérimentations autour des variétés de tomates. Et elle racontera un petit peu les conclusions et les questions que soulèvent les parallèles entre des semences hybrides et puis des semences paysannes.
Toutes les plantes cultivées ont été soigneusement améliorées sur des centaines d'années. Hein. Toutes.
Oui.
Juste. Est-ce que, justement, dans l'idée d'améliorer un produit pour son apport bénéfique, que ce soit financier ou commercial, est-ce qu'on détériore aussi son patrimoine génétique au point de rendre ces plantes beaucoup plus fragiles ? Et est-ce que ça peut être un cas qu'on peut retrouver dans cette sélection qui s'opère avec les plantes sauvages ? Est-ce qu'à vouloir sélectionner la plante qui plaît le plus, on l'amène à être plus fragile ?
On augmente la variété, en fait, c'est la variété qui a été augmentée, donc on ne peut pas dire que le but, c'est d'affaiblir les plantes. La seule précaution qu'il faut avoir, parce que ça, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est qu'il existe des graines toxiques et des graines comestibles. Donc, dans les plantes sauvages, il faut faire attention. Il y a des plantes nombreuses dont les graines sont très toxiques. Donc il faut avoir une bonne connaissance botanique. Et pour avoir une bonne connaissance botanique, il faut savoir connaître les fleurs, les tiges, les feuilles, les graines, pour arriver à trouver le nom scientifique précis de la plante. Mmh. Je peux se tromper comme pour les champignons. On peut se tromper pour les graines comme pour les champignons. Hein.
Et je voulais me limiter aux plantes potagères, par exemple.
Oui, pour les plantes potagères, je pense que ce que tu dis est vrai. Il y a bien sûr des affaiblissements, alors pas uniquement liés à l'amélioration, enfin, disons, à la modification des semences, mais aussi liés aux monocultures, liés à l'affaiblissement de la diversité globale dans les champs. C'est-à-dire que quand il n'y a plus qu'une espèce qui pousse, il y a des ravageurs qui sont spécifiques à ces espèces qui s'étendent. Enfin voilà, donc il y a tout un tas effectivement de sujets qu'on peut rapprocher de l'affaiblissement. C'est vrai qu'il y a aussi une perte d'adaptabilité par rapport au climat. Donc justement, ces questions de biodiversité sauvage et cultivée, elles se rejoignent sur le sujet, par exemple, dans un contexte de changement climatique, l'affaiblissement de la biodiversité donne moins de souplesse au végétal vivant, pour s'adapter et trouver des espèces en son sein qui pourront être plus à l'aise dans les nouvelles conditions climatiques à venir. Donc c'est sûr que c'est un des enjeux de maintenir cette biodiversité et de comprendre que c'est parce qu'il y a beaucoup de variabilité de différentes espèces qu'on a aussi du répondant face aux changements qui vont avoir lieu.
La prise de conscience aussi, donc certains partenaires comme le musée de Die et Archéologie, ou alors la maison de semences dans le Diois, tous ces partenaires sont là aussi pour conforter cette démarche d'autonomie de plantes locales. Quels sont les autres partenaires ? Vous parliez aussi de l'association de philatélistes pour cette présentation de timbres sur la mycologie. D'autres partenaires qui ne sont pas forcément cités, mais qui sont impliqués dans ce travail que Source et Racine opèrent tout au long de l'année ?
Alors, les potagers rares.
Oui, alors là, dans le cadre de l'expo, il y a les potagers rares qui viennent pour le troc de graines, qui sont donc une association de jardiniers. Après, sur le programme, on a parlé de tout le monde. Hein, donc, Oriane avec son travail de collectage par les films, Sandra avec son travail de reproduction de semences dans le cadre du maraîchage, Élise qui reproduit des arbustes locaux, Jérôme qui a travaillé très longtemps sur les espèces potagères du Diois, François Tranier, donc, qui a fait l'exposition sur les semences du point de vue botanique. Et après, il y a tous les gens de Source et Racines. Donc, c'est vrai qu'on est quand même nombreux dans Source et Racines. Et c'est vrai qu'après, cette initiative-là, semences et graines, cette expo, elle va se prolonger dans un projet un peu plus creusé qui porte sur les jardins du Perrier et une étude qu'on va faire durant cet hiver et jusqu'au printemps prochain, enfin jusqu'au mois de juin prochain, avec comme but de cartographier et de raconter les différents usages du Perrier, des jardins, au cours du temps, depuis des périodes plus anciennes jusqu'à maintenant, les transformations qui sont en cours dans les jardins. Est-ce qu'on jardine toujours ? Est-ce qu'on est toujours dans l'idée d'avoir une production alimentaire dans son jardin ? À quoi servent les jardins ? Donc on va aussi initier, avec ce travail sur les semences, un travail de collectage et de partage, de transmission sur l'histoire des jardins du Perrier et leur valeur pour les Diois.
Sur ses racines, donc, propose ce salon d'automne qui aura lieu du 12, 13 et 14 novembre, salle polyvalente, avec les normes sanitaires en rigueur. Et je vous remercie en tout cas, Marie et Jean-Claude, d'être venus nous parler de celui-ci, de ce salon d'automne. Donc, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.
Pour rappel, on peut indiquer quand même le site internet. Il suffit de taper sur ses racines, au pluriel, j'imagine, sur le moteur de recherche et on trouvera assez facilement le site.
J'espère. Je ne sais pas s'il est... Alors, on a un Facebook et on a donc ce site qui est un Wix site. Donc, on pourra mettre le lien sur RDIWA. Et effectivement, en tapant sur ses racines dans le moteur de recherche, j'espère qu'on sort facilement. Sinon, c'est aussi possible de nous envoyer un mail à source et racines, au pluriel, les deux et tout attaché, @gmail.com. Donc ça, c'est pour des questions plus précises.